chose. Je me souviens, quand je faisais ma thèse sur Giacometti, j'étais allé voir Jacques Dupin, que je salue puisqu'il est mort il y a quelques mois. J'ai écrit un texte justement en hommage pour lui. Et je me souviens qu'une des premières choses qu'il m'avait dit, en face de moi, là, avec son verre de whisky, qu'il remplissait plus vite que le mien d'ailleurs, ce qui fait qu'il avait l'impression que les jeunes historiens de l'art ne tenaient plus le coup par rapport à lui. Mais lui, il avait bu avec Francis Bacon. Bon, bah, on ne peut pas non plus s'aligner. Hein. Et il me disait, vous savez, l'important, c'est de porter les sculptures. Moi, j'ai porté des Giacometti, et il me regardait, c'est lourd. Et là, j'avais compris qu'il voulait me détourner des fantômes, pas trop penser en historien de l'art, mais porter les sculptures. Hein. Donc, le fait de porter, et c'est un geste qu'il y avait autrefois par rapport à la sculpture, on la portait. Aujourd'hui, plus c'est éthéré, mieux ça vaut, hein, ou plus faut pas toucher. Mais avant, on touchait et puis on manipulait et puis il y avait ce contact tactile. Maintenant, on a presque l'impression qu'il n'y a que les aveugles qui ont le droit de toucher parce qu'on leur fait des programmes spéciaux, ce qui est un peu bizarre quand même. Hein. Alors, une dernière chose avant que je passe au fétiche, parce qu'il ne faut pas quand même que je m'attarde trop, je vois j'ai beaucoup d'images aujourd'hui, c'est beaucoup d'artistes également, alors Tinguely lui-même, mais ont procédé au réinvestissement d'un champ qui avait été un peu oublié, c'est-à-dire les spectacles éphémères et notamment les feux d'artifice. On a vu chez Henri Sala récemment le sens du feu d'artifice, mais aussi chez Chai Guoqiang, qui a eu cette très belle exposition au musée de Nice, Chai Guoqiang, dont je vous montre ici un Flying Dragon, qui a été précisément montré à Humlebæk, à Copenhague. Et il faut savoir qu'après, enfin, logiquement, j'ai une autre image, le dragon volant est mis en feu, exactement comme les œuvres de Tinguely, c'est-à-dire qu'il y a une performance et à un moment, il disparaît. Alors, voilà donc mon premier point qui est de montrer, alors j'en aurai beaucoup d'autres exemples, qu'il y a eu un réinvestissement de l'art populaire par les artistes. Deuxième chose, j'ai relu encore, parce que je voulais vraiment en être sûr, mais je me souvenais d'avoir lu une déclaration dans Art Press en juin 1986, dans l'Art Press 104, de Margit Rowell. Lors de la précédente grande exposition, je vous ai dit que j'espère faire une exposition qui s'appellera « Après la sculpture moderne » au Centre Pompidou. C'est pas gagné. Hein. Mais la dernière grande exposition de sculpture, ça date de 86. Vous vous rendez compte ? Ah, c'est lourd. Bah oui, j'ai dit. Bah oui, c'est ce que m'a dit Dupin. C'est lourd. Ah oui, mais c'est cher. Ah oui. Bon, évidemment, il vaut mieux faire Dali. J'ai fait Dali, maintenant on peut faire peut-être la sculpture. Hein. Voilà. Alors, Margit Rowell, je la cite, c'est pas pour être méchant avec elle, mais je la cite, page 23 quand même. On est en 86, elle écrit « Je suis allée au Japon, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis aperçue que la sculpture est un concept purement occidental dont les exemples les plus évolués sont européens. » Fin de citation. Hein. C'est quand même assez étonnant, parce que, en plus, en étant allé au Japon, hein, où la sculpture, la pierre, où les rituels sont tellement présents. Donc je pense qu'elle est incontestablement intègre et tout à fait... Mais elle n'a pas mesuré ce qui va se passer par la suite, aujourd'hui elle le mesure, qui est, dès 1989, cette exposition dont le Centre Pompidou ne voulait pas à un moment donné, et qui a quand même été faite, qui était une conception d'abord de Pontus Ultène, qui voulait faire un... et qui avait dit à Jean-Hubert Martin, il faut y aller, il faut faire une exposition qui montrera que nous ne sommes pas les seuls à faire de l'art. Hein. Et ça a été Magicien de la Terre, où la sculpture non européenne a été pour la première fois présentée. Alors là, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais on voit en bas notamment toutes ces sculptures en ciment peintes qui ont été une révélation à l'époque. Je ne parle pas des peintures murales. Le grand rapprochement entre le Richard Long, le Mud Circle, et puis la communauté aborigène qui a fait cette peinture de sol était tout à fait frappante. On y voyait également, tout à fait en haut, les premiers exemples de fantasy coffins, c'est-à-dire ces cercueils sculptés du Ghana. Et ça, c'est, moi, je leur consacre un peu un chapitre parce que c'est très intéressant. Ce sont des œuvres qui ont d'abord été présentées dans les biennales avant d'être achetées par les musées d'anthropologie. Maintenant, il y en a au musée du Quai Branly, mais ce sont des objets qui ont d'abord été achetés par l'art contemporain, c'est-à-dire qu'ils sont devenus intéressants d'abord par l'art contemporain. Vous voyez, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas comme les surréalistes qui ont découvert, ou Picasso qui est allé au musée du Trocadéro et qui a découvert des masques nègres. Là, c'est l'inverse. Ce sont les artistes contemporains et les commissaires qui ont trouvé des choses et qui les signalent. C'est un peu le cas aussi de l'art aborigène australien. Hein, ça a d'abord été montré dans les biennales d'art contemporain et ensuite c'est passé. Alors, en référence à une exposition à laquelle j'avais participé pour l'anniversaire, les 500 ans du David de Michel-Ange à Florence, avait été commandé à Robert Morris, c'était en 2002-2003, quelque chose comme ça, avait été commandé à Bob Morris, celui que vous avez vu tout à l'heure, une vidéo qui s'appelait Birthday Boy. Hein. Et elle était très marrante, je vous la conseille si vous pouvez. Finalement, après, il l'avait montré au Louvre, dans un des contrepoints du Louvre. Ce sont deux conférenciers deux conférenciers assez caricaturaux qui parlent du David. Et puis ils boivent, vous voyez. Ils boivent un petit peu. Puis à un moment donné, alors chez le White Anglo-Saxon Protestant, l'homme très bien qui est à gauche, il s'aperçoit que ce Michel-Ange est en train de se transformer, vous voyez, parce qu'il a peut-être un peu trop bu, et on voit dans la vidéo en une femme noire, très belle, tout ça, mais qui le change de ce à quoi il était habitué par rapport à Michel-Ange. Et cette femme, au contraire, elle découvre que ce Michel-Ange, et ce David, est en train de devenir un homme en chair et en os, pour montrer que d'une certaine façon, Bob Morris a parfaitement intégré l'idée qu'il n'y avait pas seulement une sculpture occidentale dont le prototype serait le marbre du David, mais bel et bien une sculpture dans toutes les civilisations, bien différentes, il est vrai. Alors, à mon avis, tout procède de la sculpture de Picasso. Je vous ai dit combien elle était importante, bien entendu, et je crois qu'il y en a un qui ne se trompe pas, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est Ernst Gombrich. Dans son livre Art and Illusion, qui date de 1960, il fait une comparaison que je trouve très très juste entre la Gonon de Picasso, sculpture extrêmement connue, vous savez, faite d'abord en plâtre, la Gonon est gravide, donc il y a un sac, enfin un panier d'osier qui est bourré de plâtre, il y a une queue de casserole qui forme sa queue, une de poils, toutes sortes de choses, et puis surtout la tête. La tête est faite, vous le savez, de la voiture, du jouet de Paul, hein, du fils de Picasso, et en guise d'yeux. Alors les oreilles, c'est je crois des, je sais plus ce que c'est les oreilles. Hein, bon, c'est des anses de je ne sais quoi. Et en guise d'yeux, je ne sais pas si vous le voyez bien, il a mis deux billes de son fils. Hein, les deux billes. Alors, il y a un problème chez Picasso, c'est qu'il ne s'arrêtait pas comme du Buffet, il ne s'arrêtait pas au prototype. C'est-à-dire qu'après, il lissait tout en bronze. C'est-à-dire que c'était ensuite édité en bronze. Bon, c'est le cas pour Giacometti, ses plâtres sont infiniment plus beaux que ses bronzes. Mais en même temps, il y a une sorte d'unification qui était volontaire. C'est différent du Buffet, hein, c'est certain. Et donc, il fait cette comparaison en disant que pour Picasso, tout vaut, par une sorte d'analogie universelle, analogie formelle, ben des billes, ça peut figurer des yeux, et il compare ça, alors je vous ai mis l'image, il compare ça aux têtes préparées de Nouvelle-Guinée, où par exemple, vous voyez, dans ce crâne surmoulé, eh bien, les yeux sont réalisés, ils ne jouaient pas aux billes, mais ils avaient des corisses, des coquillages. Donc, c'est les coquillages qui vont fermer et qui vont fournir les yeux. Hein. Et je vous mets à côté, parce que j'avais beaucoup travaillé là-dessus, un dessin de Giacometti qui représente ces têtes surmoulées qu'il avait fait lui-même pour à la fois la tête sur tige et puis pour le nez, que vous pouvez voir d'ailleurs actuellement à l'exposition qui est à Grenoble, au musée d'art moderne. Non, c'est au musée, mais c'est le musée. Hein. Et donc, on voit très bien que le fétiche est pleinement intégré dans l'œuvre de Picasso, mais pas forcément comme quelque chose à imiter, mais des procédures de liberté. On prend n'importe quels éléments et on suggère à travers elle un regard. On suggère. Il y a plus de regards finalement, hein, voyez. Il y a plus de regards dans ces corisses, dans ces coquillages et dans ces billes que dans pas mal de sculptures de nos musées qui sont imitées. Voyez. Hein, c'est une très belle photo avec Giacometti et sa tête. Et finalement, procédant, hein, tout à l'heure je disais que procédant Duchamp, il y a tout un courant de l'art qui réinvestit la fête populaire, la baraque foraine, etc. De même, à partir de Picasso, et notamment de la fameuse tête de taureau que j'ai déjà évoquée la dernière fois, je n'y reviens pas, un ensemble d'artistes comme Joseph Beuys, dans l'action Coyote de 74 à la galerie René Bloch, ou encore Rebecca Horn dans cette performance de 85 qui s'appelle Ein Horn, donc la licorne. On voit très bien comment cette idée de l'art occidental qui n'hésite pas à se totémiser, hein, c'est-à-dire qu'à créer des figures qui sont des figures à partir du corps, à partir d'extensions, de prothèses corporelles, alors que ça soit celle de la roue de bicyclette, que ça soit le bâton eurasien de Beuys, ou que ça soit la prothèse donc sur la tête de Rebecca Horn, extension, disait-elle, à partir de ces éléments, le corps est fétichisé, le corps est totémisé, et on obtient, d'une certaine façon, la rencontre que les surréalistes avaient espérée. Par exemple, ici, alors de nouveau l'action Coyote, 74, mais cette très belle exposition de Daniel Spoiry, qui s'appelait donc en 78, qui s'appelait au Centre Pompidou, qui s'appelait donc Hommage au Dogon et au Rimbaud. Hein, Rimbaud qui nous disait déjà qu'il aimait les dessus de porte, les peintures idiotes, toutes ces choses un petit peu primitives. Donc la liaison entre le goût qu'avait Rimbaud, qu'avait Huysmans pour l'art populaire, et le goût pour les fétiches se trouve parfaitement ici réuni. Or, on pourra en citer pas mal d'exemples, aussi bien chez James Turrell avec son Roden Crater, mais aussi les fameux travaux Il avait d'ailleurs été présenté, je crois qu'il y avait eu une exposition à Lyon de Charles Simons. Charles Simons, vous voyez, qui crée sur lui-même ou dans des petits espaces de musée ou dans la ville des habitats minuscules. Little people, appelle-t-il cela. Ce sont des dwellings, ce sont des petits éléments. Alors c'est assez émouvant parce que, par exemple, au Whitney Museum, ou bien à New York, ou bien au MoMA, un endroit où vous vous attendez pas à les voir, ou dans le Bronx, hein, ça faut le savoir. Eh bien, vous avez ou dans la ville de Toulouse, parce qu'il y en a. Il avait fait une grande exposition. Eh bien, à un coin de rue, ben, vous obtenez, vous voyez ces espèces d'habitats qui sont parallèles et qui évoquent des peuples primitifs. Alors, il ne faudrait pas être complètement irénique parce que, bien sûr, se pose la question de ces artistes occidentaux comme Beuys ou autres qui viennent en somme sur les terres. C'est un reproche qui avait été fait aux magiciens de la terre que de dire qu'au fond, et Al Foster, dans un très très bel article qui s'appelait The Artist as Ethnographer, c'est un très bel article où il dénonçait le fait que, quand même, on allait prendre en somme des traditions qui n'étaient pas les nôtres, ensuite on les relançait dans notre marché à nous de l'art pour réactiver l'intérêt. Donc il y avait une sorte de détournement, hein. C'est bien certain qu'à un moment donné, il y a eu un enjeu critique. Je vous en montre quelques images. Un artiste lusigno qui s'appelle James Luna, un artiste indien, avait fait cette action très remarquable en 85, si j'ai bonne mémoire, 87, pardon, 87, au musée de San Diego, en Californie. Il avait fait une action qui s'appelait The Artifact, l'artefact, et il s'était présenté dans le musée d'ethnographie de San Diego en tant que sculpture morte, oui, en tant qu'artefact, et avec des étiquettes, vous voyez. Et les gens visitaient donc et voyaient cet Indien bien mort, en somme. Et il y avait eu une véritable levée de bouclier de la part des natifs contre l'exposition qui avait eu lieu en même temps que les Jeux olympiques de Calgary en 88. Et il y avait une exposition qui s'appelait The Spirit Sings. Et cette exposition avait montré, bah, ce que vous pouvez imaginer de l'art populaire, mais genre art d'aéroport, si vous voulez. Et donc Rebecca Belmore, une indienne, avait, vous la voyez ici au premier plan, avait protesté contre ce détournement à des fins purement économiques et méprisables de leur propre culture. Et elle avait fait cette performance en disant: ah bon, nous sommes des barbares. Eh ben, regardez, effectivement, s'il vous faut de la scarification, de la femme sauvage, je suis prête. Hein. Et donc, elle avait évidemment monté tout ce travail pour dénoncer le regard relativement voyeur sur ces arts-là. Et je dirais que généralement, les artistes occidentaux ont bien compris. Pas tous. Je crois qu'il y a toujours chez Joseph Beuys, il a toujours gardé jusqu'à la fin son côté écolo primitif, si l'on veut, avec cette dernière pièce qui me paraît un petit peu, comment dire, trop jolie pour être honnête, Capri Battery, qui évoque l'idée que oui, on pourrait faire de l'énergie bio, hein. Alors certains vont dire oui, c'est tout à fait ce qu'il nous faut, c'est tout à fait avant-coureur, c'est l'artiste qui s'engage. En même temps, on ne peut pas ne pas trouver ça d'un raisonnement assez court. Et un autre artiste qui a beaucoup joué là-dessus, c'est Romuald Azoumé, qui, dans la bouche du roi notamment, alors il y en avait encore à la FIAC, ben non, c'est pas la FIAC, c'est Art Paris, la foire de Paris, excusez-moi, qui s'est fermée il y a quelques jours là. Il y avait encore ces fameux bidons. Vous voyez, qui sont ces bidons qui sont totémisés. Alors, c'est intéressant, c'est pas lui qui a inventé ça, il y a eu un problème avec son professeur, puisque c'est son professeur qui avait fait ça, le premier des masques bidons, parce que il est béninois. Et les Béninois ont l'habitude, pour avoir de l'essence, d'aller au Nigeria, qui est voisin. Et donc, alors en revanche, ce qui était très intéressant, c'était le film qu'il avait fait sur ces jeunes qui traversent, en prenant des risques énormes, insensés, en pétrolette, la frontière, et qui sont recouverts de ces bidons. Et pour qu'on reconnaisse son bidon, chacun personnalise le bidon, vous voyez, hein. Donc, vous savez que votre bidon, c'est AS. Et vous, donc il y a une sorte de personnalisation. Alors l'idée est extrêmement intéressante, mais on peut se demander ce que, d'une certaine façon, ensuite, si vous avez votre bidon chez vous, and so what? Je veux dire, est-ce que la pièce va au-delà d'une démarche critique? Le film est extrêmement intéressant, mais dès lors que l'on a un objet. C'est plus discutable. Alors je crois que, et là je vais aller plus vite, hein, je vois que je suis trop en retard, je crois que des expositions comme celle qu'il y a eu à Lyon, hein, vous vous en souvenez tous, Partage d'exotisme, qui a montré eh bien, on était tous l'exotique de quelqu'un, hein, et que le regard occidental ne devait pas être porté davantage sur les autres civilisations que les autres civilisations pouvait nous rendre l'appareil. Il y a actuellement, par exemple, au musée d'Alger, au MAMA, il y a une exposition de cabinet de curiosité. C'est extrêmement intéressant, voir comment un cabinet de curiosité peut se constituer et qui n'est pas d'une tradition occidentale, si vous voulez. Hein. Donc, on est toujours prêt. Alors, ça, c'était absolument excellent. Hein. Je ne commente pas, mais c'est l'idée de qu'est-ce que ce serait une collection d'art contemporain, notamment avec un Dan Flavin, vous voyez, en pleine Afrique, avec rien pour brancher, évidemment, le néon. Ça, c'était une très belle idée de. Comment il s'appelait Bolganov, ou je ne sais plus, un artiste, mais vous retrouverez ça facilement. Alors, un des artistes qui a le plus questionné de façon très très habile ce côté artistico-touristique de nos installations et de nos biennales, les publics allant de biennales en documenta et autres, et en retrouvant, vous voyez, alors les artistes qui ramènent de leur voyage. Hein, qui ramènent des choses et puis qui font des installations à partir de ça. Il y en a un qui s'en est fichu d'une façon assez radicale, c'est Sergio Vega, hein, que moi j'avais vu la première fois en 2006 au Palais de Tokyo. Il y avait une exposition qui s'appelait Crocodilian Fantasies, que je vous montre ici, où Sergio Vega montrait comment. Dans un environnement de musée, eh bien, on était invité à retrouver le paradis perdu. C'était toujours des ambiances. Si vous êtes allé, alors il y avait un crocodile qui se baladait sur des rails, une cabine de téléphone perroquet. Hein, vous voyez, il est en train de passer un petit coup de fil. Je pense qu'il bavarde beaucoup comme un perroquet comme moi. Mais voilà. Un autre qui a aussi montré à la dernière Documenta cette disposition du cabinet de curiosité d'une façon extrêmement, et puis du musée d'une façon extrêmement critique, c'est Kaderatia aussi qui a montré comment l'Occident pouvait réparer le tort qu'il a fait aux autres cultures, avec les gueules cassées. Et donc on voit très bien que maintenant, je crois, alors quand même, mais je passe vite, hein, quelques-uns de mes préférés, par exemple celui-ci qu'on voyait à la Documenta, qui est Brian Jungen. qui faisait des masques à partir de chaussures Nike. Vous voyez, des totems. Vous avez tous vu ça. Il y avait cette idée de se servir de ce qu'on a appelé, les Américains, surtout les Canadiens, ont créé, à partir de Coyote, justement, un concept qui est le trickster. Le trickster, c'est celui qui vous joue des tours. Donc l'œuvre d'art comme trickster, comme quelque chose qui, au début, vous croyez que c'est des masques. Alors là, vous prenez votre air inspiré, beauté de la sculpture africaine, etc. Puis vous vous approchez, paf, vous tombez sur des chaussures de marque, comme disaient les de la marque Nike. Et il y a cette espèce de contradiction permanente. Celui qui fait aussi très très bien ces choses-là, c'est Jimmy Durham. Donc il avait montré cette œuvre qui s'appelait A Piece of, qui était dédiée d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit Spoerry, c'était pas Spoerry, c'était Filiou. J'ai dit Spoerry, non, pour les Dogons et les Rimbaud, hein, vous barrez ça. Hein, c'est, pourquoi ? Parce qu'on. Pourquoi je pense à Spoerry ? Parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, parce qu'on l'invite au festival d'histoire de l'art de Fontainebleau, donc il va venir. Mais c'est pas Spoerry, c'est Filiou, c'est Robert Filiou. Et là, donc, la pièce est dédiée à Filiou, à Robert Filiou, et ça s'appelle A Piece of Wood Sculpted by a Dog, Painted by a Newman. Donc la pièce de bois sculptée par un chien, vous voyez, parce qu'il a mâchonné et peint par un humain. C'est une façon de se moquer de la manière dont les Occidentaux toujours mettent des vitrines, commentent l'hominisation des artefacts. Alors la dernière Documenta, il avait présenté cette chose qui était très très drôle. Alors on avait d'un côté Exhibit A, il y avait une sorte de silex taillé, et ensuite Exhibit B, et c'était une balle traçante de mitrailleuse, mais qui n'avait jamais servi parce qu'elle s'était cassée dans le chargeur. Et donc il explique, en 41, il explique A Short History of Europe. Donc c'est l'histoire de l'Europe en deux artefacts, une pièce, un silex, l'Europe construit, artefact B, l'Europe détruit. Donc une histoire de l'Europe assez, assez concentrée. Et je terminerai sur ce point avec les fameux fantasy coffins que notre ami Yann Fabre a repris peut-être avec toujours son sens un peu de la dérision, mais au fond on est là. Alors là c'est les deux de droite, ce sont vraiment des pratiques attestées au Ghana, et là aussi ce sont des pièces qui ont commencé à être vues d'abord comme des pièces artistiques et qui ont ensuite. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des travaux d'anthropologues, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça a été d'abord qualifié artistiquement et ensuite c'est rentré dans les musées d'anthropologie. Au Ghana, on enterre les gens dans leurs rêves. Alors, je vous ai montré ça tout à l'heure, il y avait une Mercedes. Si quelqu'un a voulu être riche, on l'enterre dans une Mercedes. S'il avait voulu être en bois, qu'on fait réaliser par des sculpteurs. Alors lui, je ne sais pas s'il a voulu être éléphant, je ne pense pas, mais il y a une liaison à l'éléphant dans l'histoire personnelle, ou le cygne, etc. Bon, il y a toujours des histoires qui sont liées. Alors on personnalise comme ça. Et c'est vrai que avec ses scarabées et son installation, Yann Fabre reprend avec les élytres ce principe d'une sorte de fantasy coffin. Alors une chose qui me paraît tout à fait nouvelle. Et là, j'ouvre une petite parenthèse dans mon idée du fétiche et de l'apport extra-occidental. C'est quand j'aborde maintenant la question du vivant. parce que j'ai dit que la machine avait tendance à introduire le mouvement dans la sculpture. C'est vrai. Hein. Mais le XXe siècle, et notamment, ça a été le choc de cette exposition de 69 à la Galerie Latico à Rome, cette exposition de Yannis Kounellis, qui s'appelait I cavalli, les chevaux. Et il avait, plus tard le fera Boyce en ayant son coyote dans la galerie de René Bloch, mais ici à la galerie Latico, alors ça a été refait, mais toute la galerie était laissée à des chevaux. Hein, donc Kounellis réalisant un renversement tout à fait significatif en disant pour que vous aimiez un cheval, il faut que vous ayez vu les chevaux du Parthénon. C'est-à-dire que la sculpture est devenue pratiquement un écran pour voir la beauté de la nature. Moi, je renverse les choses, je retrouve le fameux cheval de bois de l'enfance, c'est-à-dire que je retrouve un cheval primitif, je vous montre le cheval, et vous estimerez ensuite la sculpture à partir de la réalité vivante et non pas l'inverse. Ne partons pas des écrans, ne partons pas de la frise du Parthénon, mais partons de cette réalité-là. Hein. Et donc, à la suite, le mouvement de l'Arte Povera a vraiment s'est engouffré dans cette brèche en montrant des choses vivantes. On évoquait, par exemple, la structura qui mangiare, la fameuse salade de Anselmo, qui date des mêmes années, hein, 68-69, dont vous connaissez le principe. Je ne commenterai pas l'igloo pour Jap, parce que j'ai pas le temps, mais je me centrerai juste sur cette fameuse salade. Vous savez, c'est l'élément vivant, la salade vivante, qui maintient le bloc latéral, vous voyez, le petit bloc qui est couplé à son socle, enfin à ce piédestal d'une certaine façon, au gros morceau, par un fil de fer. Et lorsque la vie disparaît, c'est-à-dire lorsque la salade flétrit, ce qui fatalement arrive, eh bien, la sculpture est détruite. C'est-à-dire la sculpture n'existe que par le vivant, à nouveau. Il y a une espèce de renversement. Hein. On a ces artistes comme Hans Hacke, au même moment, avec ce cube de condensation, qui nous dit effectivement la sculpture n'existe comme système que si vous vous en occupez, c'est-à-dire que si on branche, que si on a... Vous savez, tout conservateur de musée commence à vous dire, avant même d'ouvrir les portes, le musée me coûte déjà chaque jour parce qu'il a fallu payer l'électricité, etc. Et donc, c'est cette idée qu'il faut visualiser le fait que pour que la machine fonctionne, eh bien, il faut une énergie vivante qui la fasse fonctionner. Et ça, c'était une manière de complètement rompre avec le minimalisme, le cube, donc, à savoir, il s'agissait d'intégrer au cube de Donald Judd, des minimalistes, un élément vivant qui était la condensation, la vapeur, donc un élément vivant qui venait s'introduire dans la géométrie parfaite. Et même chose chez ce magnifique sculpteur qui enfin a une exposition, alors je vais vous le dire parce que je l'ai noté, j'ai une de mes étudiantes qui termine sa thèse sur lui, qui est Piotr Kowalski, et il aura le 12 avril, donc c'est la semaine prochaine, une exposition à la galerie Downtown François Lafanour, 33 rue de Seine. Hein. Alors c'est un artiste magnifique, et Beaubourg vient, ou sont en train, mais enfin je crois que c'est pratiquement sûr, ont acheté cette œuvre que vous avez ici, qui s'appelle Dressage d'un cône, qui date de 67. Donc le cube de condensation doit dater de 66. Là, honnêtement, j'ai pas le temps de regarder, vous vérifierez, mais c'est pas un problème majeur, mais c'est milieu des années 60. Et Piotr Kowalski fait cette chose qu'il a jamais pu vendre d'ailleurs, mais vous pouvez la faire vous-même, hein. C'est-à-dire vous achetez, vous avez encore des tourne-disques là, ceux qui font du sampling et autres, ils peuvent, mais vous prenez un tourne-disque, un plateau qui tourne. Et vous plantez sur le plateau de l'herbe. Hein. Ça, c'est assez facile. Et vous faites tourner. Hein. Vous faites tourner en permanence. Et peu à peu, sous l'effet contrarié de la force de centrifuge et de la force d'inertie, de la pesanteur, eh bien, votre herbe, au lieu de pousser... Hein, droite, votre herbe, c'est amusant, mais hier j'ai vu Pulp Fiction, donc je suis complètement là-dedans, hein, mais ça c'est autre chose. Mais l'herbe pousse droite, comme ça, hein, et au lieu de pousser droite, au contraire, sous ce phénomène, parce que l'herbe finalement va compenser la force centrifuge, et donc elle va pousser à l'oblique. Et elle va former. Piotr était un extraordinaire scientifique. Il avait été formé, c'est un mathématicien. Il avait été formé au MIT. Moi, je l'ai connu et énormément admiré. Et donc, il nous montre alors l'idéal platonicien derrière, hein, des formes, le triangle, etc. Et la nature... qui, d'une certaine façon, ne fera jamais cet idéal des formes platoniciennes. Mais l'homme peut s'en approcher. Donc, vous pouvez construire... Alors, lui, son idée, ce n'était pas de vendre des objets, mais de vendre un process. Hein. Il m'a dit qu'il avait trouvé un millionnaire australien, peut-être milliardaire déjà. Maintenant, faut plus compter en millions, on a compris. Hein. C'est milliard carrément. Donc un milliardaire américain, australien, qui voulait lui acheter. Mais le problème, c'est qu'il se disait, mais est-ce que vous allez me l'entretenir ? Parce que vous êtes loin. Alors bon, c'est le problème. Hein. C'est vrai que vous êtes en Tasmanie, c'est difficile de faire tourner votre herbe. Hein. Mais les gens trouvaient pas ça sérieux. Parce qu'il voulait un objet, alors que Piotr vendait un concept, une idée, une chose qui tournait. Et donc voilà le dressage, ça s'appelle dressage, comme si vous dressiez un animal, si vous dressez quelqu'un de vivant, mais en même temps vous le faites lever, dressage d'un cône. Et heureusement, Beaubourg va l'acquérir. Hein. Enfin, il faut dire que Beaubourg en a déjà acquis un qui s'appelle le grand manipulateur, et il est cassé. On voudrait le refaire, parce qu'à force de manipuler... Le problème, c'est que... Et puis surtout, ils ont perdu une partie du mode d'emploi. Enfin, c'est un peu problématique. Bon, enfin, heureusement, elle a retrouvé des éléments. Donc, je vais très vite, hein, parce que le temps passe terriblement. Mais voyez que beaucoup d'artistes, et ça, c'est très connu, ont essayé, en fait, d'intégrer dans le principe du mouvement... des phénomènes naturels, bon ici dans la spirale Giotti de 70, ou bien alors beaucoup plus connu, je vais très vite, avec Giuseppe Pennone, avec cette pièce incroyable, avec cette main agrippée de bronze et ce titre, je ne vais pas le dire en italien, mais je ne m'en souviens plus très bien, mais qui est « Il croîtra partout sauf en cet endroit ». En effet, la pincée qui est donnée à l'arbre, une fois que, fait que l'arbre va se développer autour, mais à cet endroit-là, il restera toujours pris par le bronze. Alors, il va monter, hein, il a déjà monté cette main, et Giuseppe Pennone a fait aussi beaucoup de pièces. Alors, je vous en montre au moins une que vous connaissez. Alors, peut-être celle-là, c'est plus facile à voir. C'est le fameux arbre des voyelles de 99 qui a été placé dans le jardin des Tuileries. Et l'idée, c'est que l'arbre de bronze, qui est un arbre mort, a à chacune de ses extrémités un arbre vivant qui pousse. Alors, à un moment donné, c'était même la jungle, on ne voyait plus rien. Donc on a quand même râlé parce qu'on s'est dit il faut quand même qu'on voit un peu la sculpture. Le problème, c'est l'équilibre entre la pensée du sculpteur et la poussée de la vie. Hein. J'avais appelé ça la pensée poussée parce que faut pas pousser la pensée, mais faut pas non plus trop penser la poussée. Bon, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Hein. Là, c'était la jungle, donc ça n'allait pas. Vous connaissez évidemment Michel Blasi, qui a utilisé au principe le travail naturel de la putréfaction dans ses objets naturels aussi. Et bien sûr, je termine avec Wim Delvoye et le tatouage des marques très ironiques, évidemment, notamment de Dior ou de autres, les tatouages sur des cochons. Bon, alors ça, c'est un point qui m'intéressait également beaucoup. On voit que les artistes, lorsqu'ils ont abordé la question du vivant, ils sont allés très vite vers l'indicialité, l'index, c'est-à-dire l'empreinte. La plus célèbre, c'est évidemment la main de Rodin sculptant la tête de Camille Claudel. Hein. Et par la suite, des artistes comme Étienne Martin, avec le manteau. Je vais montrer deux choses. Étienne Martin et Giuseppe Pennon, un des souffles que je prendrai comme exemple. Vous voyez, Étienne Martin a réalisé ce manteau. Alors, on a trouvé dans les archives, quand on a fait l'exposition, cette chose absolument étonnante que je vous livre ici, parce que Harald Zeman a été le premier à montrer le manteau dans son musée à Berne. Hein. Et il avait demandé à Étienne Martin une présentation. Et Étienne Martin, vous voyez, écrit alors une présentation pour Harald Zeman, c'était une présentation de l'œuvre. Mais Étienne Martin, il s'est présenté lui. Et la chose était tellement extraordinaire, ce document est très très important. Donc Étienne Martin, né le, etc. Taille. Alors, donc Harald Zeman voulait mettre dans son catalogue la taille du manteau et le poids du manteau. Et lui, il met 1m51. Poids, il n'avait pas dû se peser, etc. Mais je crois qu'après, il le met. Alors, 1962, c'est-à-dire qu'il y a une telle liaison entre la chose et l'artiste que les deux sont totalement liés. Et vous savez bien que Pennon, lorsqu'il a fait cette œuvre qui est actuellement exposée dans les salles de l'Arte Povera au Musée d'Art Moderne, Musée National d'Art Moderne, au Centre Pompidou, a fait cette œuvre en pensant faire son autoportrait. Et il s'est imprimé, vous voyez, ses jambes, son torse, il a gonflé le torse sur cette motte, sur cette masse, sur cette jarre d'argile qui a pris l'empreinte de son corps. Et ensuite, il a, vous voyez, alors je n'ai pas une photo qui montre le dessus, mais regardez bien, il a ensuite imprimé sa tête, on voit la bouche, sur le sommet. Donc il y a une sorte de volonté par la sculpture de retrouver évidemment alors soit la vie antérieure d'un arbre, vous connaissez bien ça, soit l'empreinte de son propre corps. Et je terminerai sur cette idée du vivant, sur la notion d'auto-icône. Hein. Bon, vous reconnaissez Orlan, vous reconnaissez également donc Bruce Nauman dans une de ses œuvres qui s'appelle Make-up, qui date de la fin des années 60. Mais on peut dire que tant Orlan que Bruce Nauman s'inscrivent dans une lignée qui avait été ouverte, et ça c'est peu connu, par un personnage qui s'appelle assez étonnant, pas très sympathique d'ailleurs. Michel Foucault lui a consacré quelques pages dans Surveiller et punir, et dans parce que c'est lui l'inventeur du panoptique, vous savez, la prison d'où on peut voir tous les prisonniers d'un endroit privilégié, et donc Foucault dit que c'est le modèle de l'État. l'État doit tout voir. Apparemment, l'État ne voit pas tout, mais bon. En tout cas, l'idée, c'était, et tant mieux. Tant mieux. Parce que, alors, vraiment, mais il ne faut pas plus que les médias voient tout. Parce que ça devient dur. Hein. Et surtout, il ne faut pas qu'ils nous disent tout. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. Et on pourra en parler longuement. Mais, alors, donc, toujours est-il que, ou pas qu'ils le disent comme ça. Alors là, c'est Jeremy Bentham. Hein. Jeremy Bentham avait inventé un système d'auto-icônes. C'est un peu le photomaton en trois dimensions. C'est en 1834, ça s'appelait l'auto-icône. Alors, il avait un souci philanthropique qu'il avait amené déjà à construire le panopticon, c'est-à-dire une prison d'où on pouvait contrôler tout le monde. Et deuxièmement, comme il voulait, il était assez radin, mais il avait le sens de la collectivité et il ne voulait pas que ses funérailles coûtent des sous à sa famille ou à l'État, etc. Donc il avait l'idée qu'il fallait s'enterrer soi-même, c'est-à-dire se faire... voyez, alors voilà son idée. Il aurait voulu qu'on fasse tous comme ça, c'est-à-dire on conserve le crâne, vous le voyez en bas, et ensuite une figure de cire qui le représente, vous voyez, Bentham, tel qu'il a dans son cercueil. Alors là, c'était pour la mort, alors que Orland dit toujours qu'elle, elle milite pour qu'on soit éternel, c'est-à-dire pour qu'on soit toujours vivant. Et donc l'idée de son corps, c'est un corps hybride qui ouvre la voie vers une immortalité. L'idée de la fixité chez Bentham est l'idée d'un corps évolutif et hybridé chez Orland. Hein ? Alors je terminerai, je vais sauter ça si vous voulez bien, parce que j'ai plus le temps, mais je voudrais arriver peut-être à mon dernier point, qui est la liaison à la machine et au robot. Je crois que vous avez tous en mémoire la fameuse cloaca de Wim Delvoye qui reprend à la fois le canard de Vaucanson, vous savez, ce canard que je vous ai montré dans la première séance qui digère, et on lui met des aliments et il les évacue en plus, et aussi bien sûr le rêve de la machine célibataire qui est réactivée de Duchamp. Donc il est certain que beaucoup de, là je vous montre Tinguely et montrant sa métamatique numéro 17, donc une machine à peindre autonome avec son moteur qui se déploie devant Malraux lors de la biennale de 59, la première biennale de Paris. Ça sont de, toujours. Et je vous montre que beaucoup d'artistes, et là je reviens à Rebecca Horn, qui est très importante dans notre histoire, parce qu'elle fait le lien entre la machine Duchampienne, Tinguely, et l'idée d'une sorte de machine poétique très ancrée sur le corps. Là, vous voyez une sorte de corps circulatoire dont les circulations sont en surface, ou bien les prothèses de doigts qu'elle a développées dans un univers très poétique, et le fameux rhinocéros Kiss, qui est une machine où les deux pointes, les deux cornes de rhinocéros, elles s'appellent Horn. En allemand, ça veut dire la corne. Donc beaucoup d'éléments sont évidemment signifiants de ce point de vue-là. Alors d'autres artistes ont souhaité, là c'est plus une sorte de mise en appétit, mais je n'ai pas le temps de développer, j'avais mis trop d'images, hein, je m'en rends compte. Mais d'autres artistes ont essayé d'aller plus loin que la machine corporelle, en inversant les rapports entre nature et ville. C'est par exemple cette très poétique œuvre qui date de 72 de Robert Smithson, juste avant sa mort en 73, qui s'appelle Floating Island. Il s'était aperçu que, enfin, tout le monde sait qu'autrefois Manhattan était une forêt, et que petit à petit, la ville s'est construite et a vraiment fait disparaître la forêt. Aujourd'hui, la nature est simplement centrée sur le Central Park, justement. Et donc, l'idée, c'était de faire parcourir par un bateau qui portait une île flottante, d'où le titre, de faire parcourir toute la circonférence de Manhattan, de façon à ce que la nature, finalement, fasse de nouveau le tour de la ville. Hein. Là, je laisse tomber cette œuvre de Tania Bourreau, elle est très bien. Mais vous avez, alors moi, j'ai beaucoup aimé dans l'avant-dernière exposition du Palais de Tokyo, l'œuvre de Ryan Gander, hein, ça s'écrit G-A-N-D-E-R, qui est c'est une exposition qui s'appelait Esperluette, et qui était assez fabuleuse. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'était étonnant parce qu'on s'asseyait comme ça, enfin ceux qui avaient la chance de s'asseoir, il y avait un banc, mais sinon on regardait, et il y avait une sorte, alors vous voyez trois occurrences, mais il y avait un gigantesque tapis roulant, mais incroyable ce tapis roulant, parce qu'on croyait que ça allait tourner et puis qu'on allait toujours voir les mêmes choses. Ben, c'était un défilé comme ça d'objets montés sur socle, tous plus insolites que les uns les autres, et qui permettaient aux spectateurs statiques d'avoir une vision qui était une sculpture cinétique avec des objets posés sur socle, mais alors avec toujours un effet de surprise, d'hilarité. Hein, c'était la seule fois que je riais au Palais de Tokyo, mais bon, souvent c'est pas drôle. Hein, et plus c'est sérieux, moins c'est drôle. Alors que finalement, ça c'est très sérieux. C'était extrêmement intéressant et peut-être c'était évidemment la chose la plus, à mes yeux, hein, la plus intéressante qu'il y avait dans toute l'exposition. Et les gens d'ailleurs ne s'y trompaient pas parce que les gens rient. Et c'est très difficile de faire rire les gens. Et ça c'était pas mal aussi, c'était évidemment l'exposition de Fabrice